Vous écoutez le podcast Entre les deux oreilles. Le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief. Un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. 34e épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être Entre les deux oreilles. Si vous me suivez depuis quelque temps, en fait, vous savez que la santé mentale en entreprise est un sujet que j'affectionne beaucoup. Eh bien, j'ai croisé dans ma carrière qu'une seule personne plus passionnée que moi sur le sujet, et c'est mon invité cette semaine. D'ailleurs, sur son profil LinkedIn, il y a une mention que j'aime beaucoup dans la section « Expérience ». Chantal Dufort est formatrice, conférencière et détaboutiseuse de santé mentale en entreprise. Détaboutiseuse, c'est vraiment joli comme mot. D'ailleurs, briser les tabous autour des maladies mentales en milieu de travail est sa mission professionnelle et elle ne s'en cache pas. Je l'ai invité cette semaine en complément d'une discussion déjà amorcée à l'épisode 31. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu une discussion avec Pierre-Luc Labbé de la firme Rome où on discutait de la question suivante: qu'est-ce qu'un gestionnaire humain? Bien, suite à de nombreux commentaires de votre part, suite à cette entrevue, j'ai voulu aller plus loin sur le sujet et aborder la notion de la posture à adopter pour le gestionnaire face à la santé mentale de ses employés et surtout face à sa propre santé mentale. Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les obstacles à considérer? Quels sont les bénéfices pour le gestionnaire et pour la culture de l'entreprise lorsqu'on priorise la santé mentale en milieu de travail? Si vous êtes gestionnaire, bien c'est un épisode que vous ne voulez pas manquer. Si vous êtes un employé, bien vous ne pouvez pas rater ça non plus, parce que vous aurez des cartes à jouer dans les mains lors de votre prochain statutaire avec votre boss. Donc sans plus tarder, mon invité cette semaine au balado Entre les deux oreilles, Chantal Dufort. Bonjour tout le monde, avec moi aujourd'hui Chantal Dufort, conférencière, formatrice en entreprise. Bonjour, comment ça va?
Bonjour Martin, je vais bien pour vrai. Hein, cette question, on veut la poser et avoir la vraie réponse. Je vais bien pour vrai, je te remercie de m'avoir invité. Je suis bien heureuse de pouvoir avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui.
Très heureux de t'avoir parce que on en parlait avant l'enregistrement. J'ai fait une entrevue il y a quelques semaines, en fait, je pense que c'est deux épisodes, l'épisode de 31, si ma mémoire est bonne, avec Pierre-Luc Labbé, qui est président de la firme Rome, qui est une firme en RH. Je lui ai posé la question des gestionnaires, comment être un gestionnaire bienveillant, comment être un gestionnaire empathique, et ainsi de suite, mais avec un point de vue RH. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis m'ont dit qu'ils ont apprécié l'épisode, mais m'ont dit « mais encore, on aimerait parler de santé mentale, comment un gestionnaire doit gérer la santé mentale de ses employés. » Surtout ça qu'on m'a demandé. Puis évidemment, ben je me suis dit, je vais parler à l'expert, je vais parler à Chantal, et tu as accepté l'invitation. Je te remercie encore. Puis c'est un peu ça que je veux faire aujourd'hui, c'est de parler de la santé mentale. Un, des gestionnaires. Deux, des employés qui travaillent avec ces gestionnaires, et aussi la santé mentale en entreprise, des hauts dirigeants, et aussi des entrepreneurs et des solopreneurs. Donc, on a une belle piste de discussion aujourd'hui. Dis-moi, on va commencer avec ça. Le gestionnaire, c'est quoi son rôle à lui en termes de gestion de la santé mentale de ses employés? Je ne sais même pas si le mot de gestion est le bon mot, là, mais c'est quoi son rôle auprès de ses employés et ses responsabilités par rapport au bien-être des employés qui composent son équipe?
Mais avant de penser de prendre soin de la santé mentale de nos employés, il faut commencer par prendre soin de sa propre santé mentale, qu'on soit gestionnaire, dirigeant, travailleur autonome, il faut prendre soin de soi en premier. C'est le fameux masque d'oxygène dans les avions qu'on entend tant parler. Mettons le nôtre en premier si on va être disponible pour les autres par la suite. Fait que je pense que le premier rôle pour les gestionnaires qu'on a tendance à oublier, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir être là pour notre équipe. Puis on sait, comme gestionnaire, on a souvent une cape de super-héros de dire « je suis là pour tout le monde, c'est moi qui gère la situation, ça va bien aller ». Je pense que non seulement il faut prendre soin de sa santé mentale en premier, mais d'être en mesure d'oser être vulnérable et de nommer que comme gestionnaire, nous aussi, on en a des défis. Ah, parce que ce qu'on veut, c'est créer tranquillement un climat de sécurité psychologique dans nos équipes, hein, qu'on soit capable de parler de santé mentale sans avoir peur de perdre notre job, sans avoir peur des jugements des autres. Mais si mon gestionnaire, qu'on sait très bien qu'ils ont beaucoup de responsabilités, se dit que tout va toujours bien, comment moi, comme employé, je vais être en mesure de nommer que peut-être que je vis des défis, puis peut-être que j'ai besoin de lever la main puis qu'on fasse peut-être différemment temporairement.
Donc, si je te comprends bien, ça commence par soi. Donc, il faut s'occuper. Donc, si je comprends bien à nouveau, c'est que avant d'être empathique, bienveillant, ouvert, ben il faut être empathique, bienveillant envers soi-même, si je comprends bien là.
Oui, parce que si on va pas bien, ça va être difficile de prendre soin des autres. Que tout le monde qui a des enfants à la maison, qui ont eu des enfants, se rappelle les journées où eux allaient moins bien, même si on dit avec un grand sourire qu'on va bien, c'est les journées où nos enfants sont les plus tannants. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ressentent.
Ouais.
C'est la même chose. C'est comme si le gestionnaire, je prends pas soin de moi, j'aurais bien vouloir être empathique, être à l'écoute, prendre soin d'eux. Il y a un moment donné où ma limite, elle va être atteinte, puis je ferai peut-être pas ce que j'ai envie de faire, justement, comme dans la bienveillance ou l'accompagnement de mes employés, parce que moi, je suis rendue trop loin dans mon processus, je suis trop fatiguée, par exemple. Et que c'est vraiment de prendre soin de soi en premier. On va se le dire, des employés, c'est aussi comme des enfants, ça l'apprend par l'exemple beaucoup plus que par les mots. Donc, comment, comme gestionnaire, je suis capable de donner l'exemple en prenant soin de moi qui va me permettre d'être là pour mes employés par la suite?
Un des éléments que j'entends souvent, et pour faire le pont à ce que tu viens de dire, c'est oui, mais je veux pas en parler. Là, je parle du gestionnaire. Là, je veux pas en parler à mes employés parce que je suis le boss, puis je veux le montrer l'exemple qu'on est fort. Hey, tu as parlé tantôt de super-héros, je l'ai noté sur mon document. Comment on fait pour convaincre que la vulnérabilité est un atout pour un gestionnaire? Et non un fardeau ou un obstacle ou un enjeu dans sa propre gestion, dans la gestion de son équipe. Comment on fait pour le convaincre?
En fait, je pense qu'on ne peut pas convaincre, il faut le démontrer. Et souvent, quand je suis en entreprise avec une équipe de gestionnaires, habituellement, il y a toujours des gens qui sont plus ouverts avec leurs équipes. Puis ils vont dire, mais moi, je le fais. Puis voici ce que ça donne comme impact. Puis je vais pas dire 100% du temps, mais presque, les gestionnaires qui ont cette ouverture-là un peu plus grande avec leur équipe, l'équipe, elle est beaucoup plus soudée, les gens sont capables de se parler des vraies choses, de nommer, même quand il y a un réel défi entre l'équipe, la communication est bien meilleure parce que on n'a pas juste un patron, on a un être humain leader avec nous. C'est bien différent. Puis ce que souvent je dis, c'est t'es pas obligé de rentrer au bureau puis dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis que t'es à bout, puis que t'en peux plus. On peut aussi décider ce qu'on va dire. Mais de dire, hey, c'est difficile ces temps-ci pour moi aussi, voici ce que je mets en place. Ou, hey, gang, aujourd'hui, ma porte peut peut-être être un petit peu plus fermée, je vis des choses qui sont plus difficiles, j'aurais besoin de plus de concentration. Je suis encore le capitaine du bateau, là.
Pierre-Luc parlait de transparence, c'est un peu ce que tu dis. Donc, c'est d'être capable d'avoir une certaine transparence avec ses employés. Puis, si je peux me permettre une tranche de vie, il y a quelques années, je pense peut-être il y a 2 ans, je faisais un petit épisode de décompensation. Et la première réaction que j'ai eue, malgré que je parle de santé mentale depuis plusieurs années, c'est de dire, ferme ta gueule, Martin, tu sais, mets ton beau costume. Et pourtant, je parle de stigmatisation, je parle de santé mentale depuis des années, mais mon réflexe, qui est probablement un réflexe normal, quand je dis normal, c'est parce qu'on est habitué à ça dans la société de société de productivité qu'on vit. Mais le deuxième réflexe que j'ai eu, c'est, je me suis dit, je pense que c'est mieux que j'en parle à mes employés. Tu sais, tu parlais tantôt que la grande majorité des gens qui en parlent, ont une équipe plus soudée, une équipe plus ouverte. C'est exactement ce qui s'est passé quand je leur ai dit, écoutez, ça se peut que j'aie un peu moins de sourire d'en face ces temps-ci. Prenez pas personnel, c'est pas parce que je suis fâché après vous autres, mais sachez que en ce moment, sourire, c'est plus difficile pour moi. Et j'avais peur de la réaction. Tu sais, je me suis dit, je viens-tu de me mettre en position vulnérable? Et là, je parle pas de la vulnérabilité qui est le mot à la mode, là. Vulnérable en disant, est-ce qu'on va pas profiter de ça ou pour me pointer du doigt ou de dire ben il n'est pas apte à faire son poste de gestionnaire. Et moi, ça m'a rapporté énormément. J'ai senti tout de suite après qu'effectivement, l'équipe était plus soudée. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a un employé qui est venu me voir puis qui dit, sais-tu quoi? Moi aussi, c'est difficile ces temps-ci. Alors, ça l'a, et j'entends ce que tu dis, mais je reviens à la question parce qu'on vit dans une, surtout dans le monde du travail, où est-ce que c'est encore excessivement tabou, surtout chez les dirigeants. Et là, j'inclus les dirigeants d'entreprise. Là. Je peux utiliser un doigt d'une main pour nommer ou indiquer le nombre de dirigeants. Là. Je parle de VP, COO, CEO, CFO d'organisation, entrepreneurs qui se sont levés et qui ont mentionné à leur équipe ou à leurs employés qui vivaient ou qui ont fait un burn-out dans le passé. J'en connais un ou deux ou trois maximum. Mm-hmm. Les joueurs de hockey, je peux t'en nommer 10.
Ouais.
Les artistes, je peux t'en nommer 20.
Ouais.
Pourquoi que les dirigeants d'entreprise, on va y aller avec eux, là, pourquoi que c'est si difficile de s'exprimer sur cette question-là?
Mais moi, je pense que c'est, ben, je vais aller dire une strate de la société, je vais dire comme ça, je pense que tu comprends ce que je veux dire, où ouais. C'est encore, pour être un dirigeant d'entreprise, tu dois travailler 70 heures par semaine, tu dois faire beaucoup, et que si tu mentionnes que tu as des défis, ben, tu n'es pas fort, tu es un faible. C'est encore un des gros tabous qui se maintient. Alors que si on recule avant les fêtes, en novembre 2023, je pense, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a sorti une étude en disant que plus de la moitié des dirigeants d'entreprise étaient sur le bord du burn-out, de l'épuisement, ou connaissaient quelqu'un qui y était. On n'ose pas en parler. À quel point, justement, tu le nommes, c'est encore, on ne veut pas oser le dire, mais comme tu es le grand chef en haut, est-ce que justement, si tu oses le dire, bien, tout va s'écrouler en bas parce que tu vas créer un climat d'insécurité en bas. Comme je pense que c'est dans le dosage de ce qu'on va dire. Tu le dis, je vais juste moins sourire ces temps-ci. Est-ce qu'on peut se permettre comme gestionnaire de le dire, comme dirigeant d'entreprise, d'oser le dire? Puis j'ai envie de dire aux gens, faut juste se pratiquer, voir, ouvrir un mini peu la brèche, la porte et de voir l'impact que ça va donner. Est-ce qu'on aura plus de soutien? C'est souvent ça qui va se passer.
Puis, l'image des rayons, en fait, c'est l'image des rayons quand tu lances une pierre hein, dans l'eau, ça allô. Fait des rayons. Donc, c'est de commencer, c'est pas d'arriver de dire, ben, moi, je vis avec la bipolarité, puis je prends tel médicament, puis non, c'est de dire aujourd'hui, puis, et c'est ce que je veux valider avec toi, si je comprends bien, c'est d'y aller aujourd'hui, je me sens moins bien, puis c'est correct. Puis ceux qui veulent en discuter avec moi ou qui ont des inquiétudes, venez me voir, puis on va en discuter. Donc, c'est l'ouverture au dialogue, c'est la transparence.
Oui, c'est l'ouverture au dialogue. En même temps, dans une équipe, on n'aurait jamais personne nommé de défi ou qu'on est beaucoup sur la productivité, sur le faire tout le temps. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de commencer à l'ouvrir, cette discussion-là. Puis c'est peut-être là la différence entre les entreprises où les gestionnaires, les dirigeants vont oser un peu plus en parler versus ceux que c'est encore très, je veux dire, encore très rigide dans une mentalité où tout le monde doit être très fort puis tenir le fort en tout temps.
Je veux revenir aux gestionnaires intermédiaires. On a parlé des CFO, CEO, mais revenons aux gestionnaires intermédiaires, ce que j'appelle la strate, tu parlais de strate tantôt, mais la strate sandwich, hein, qui sont pris entre les impératifs de l'organisation et disons les ordres, appelons ça, qui viennent d'en haut, et bien sûr leurs employés. Eux, là, depuis, je te dirais, le début de la pandémie, ils ont mangé la claque. Hein. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, là. On leur a demandé de maintenir leur niveau de productivité, la productivité de leur équipe. On leur a demandé de s'ajuster à une nouvelle réalité qui était de gérer des personnes à distance. On voit dans des statistiques qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui quittent leur poste pour ne plus faire de gestion parce qu'ils sont plus capables de gérer cette espèce de situation sandwich. Quand tu te présentes en entreprise et que tu as devant toi une dizaine, douzaine, quinzaine de gestionnaires de ce niveau-là, comment abordes-tu la question du sandwich? C'est-à-dire, comment tu les amènes à prendre conscience que, il faut qu'ils pensent à eux, mais en même temps, comment gérer cette situation qui vient d'en haut, ce stresseur qui vient d'en haut, et parfois ce stresseur qui vient d'en bas?
Mais encore, la clé, c'est un peu la communication. C'est comment je suis capable de transmettre à mon équipe que oui, moi, j'ai des consignes à faire descendre en bas, mais de prendre le temps d'écouter ce que les employés ont à dire. Ce qu'on veut, c'est permettre aux employés d'exister comme être humain, non pas comme numéro d'employé. C'est-à-dire, voici ce que j'ai comme consigne, vous en pensez quoi? Vous le vivez comment? C'est quoi les pertes que vous avez par rapport à ça? C'est quoi les avantages? Tu sais, On a besoin d'être entendu. Quand on nous impose une règle, on va avoir beaucoup plus tendance à être dans la résistance que quand on veut, on entend notre point de vue. On pourra pas, puis c'est de le dire, hein, d'emblée, je pourrais pas faire comme tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on peut trouver puis co-créer? Moi, j'aime bien l'expression co-créer des solutions ensemble. Mais ça, il faut laisser la place aux employés de pouvoir s'exprimer aussi. Mais c'est pas, tu sais, le gros de mon intervention est pas dans ton rôle sandwich. T'sais, je l'aborde un peu parce que des fois ils disent, mais j'ai pas le temps de prendre soin de la santé mentale de mes employés, j'en ai déjà trop. Puis là, je leur dis, ben effectivement, ce qu'on veut, c'est que ça vienne d'en haut complètement, cette culture-là de bienveillance, là, c'est un autre mot qui vient à la mode, mais où on va prendre soin des gens dans le cadre d'un milieu de travail aussi. C'est beaucoup plus sur ça que je vais travailler. T'sais, comment on est capable d'emmener vraiment la haute direction à faire partie du projet de la saine santé mentale dans nos milieux de travail.
Une brève pause pour remercier nos partenaires qui supportent Entre les deux oreilles et permettent la réalisation de ce balado. Entre les deux oreilles aimerait tout d'abord remercier Relief, le chemin de la santé mentale. Au cours de notre vie, il est normal de rencontrer des hauts et des bas. Ces irrégularités façonnent qui nous sommes et nous rendent toutes et tous uniques. Mais pour les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et leurs proches, ces passages plus sinueux peuvent parfois se transformer en montagnes. C'est pour ça que Relief existe, pour vous aider à vivre avec votre relief à vous. Parce qu'avoir les outils pour reprendre votre santé mentale en main, c'est déjà être sur la bonne voie. Relief offre plusieurs services pour vous aider à vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité. En groupe ou individuel, peu importe la voie que vous choisirez, l'approche de Relief demeure la même, le soutien à l'autogestion. Pour de plus amples détails, visitez le site relief.ca. À nouveau, pour des détails sur les services de Relief, le chemin de la santé mentale, visitez le site relief.ca, soit relief.ca. Entre les deux oreilles, j'aimerais aussi remercier InPower. InPower est une entreprise de Montréal qui se spécialise dans la mesure et l'amélioration du bien-être. InPower a développé la première application mobile d'auto-coaching qui permet à l'utilisateur de mesurer son état de bien-être physique, mental et social sur plus de 30 aspects de vie, d'intervenir sur certaines perturbations de son quotidien et de mesurer l'impact de ses actions sur son bien-être. InPower a aussi développé pour les organisations une solution intégrée et complète en matière de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être pour les entreprises qui luttent contre le présentéisme et l'absentéisme. La démarche InPower aide à améliorer le mieux-être des employés et le rendement des organisations en faisant appel aux sciences sociales, au développement personnel et à l'analyse des données. Pour connaître les bénéfices de la solution InPower pour les organisations et les humains qui la composent, visitez le site inpower.com. À nouveau, pour obtenir plus de détails, visitez le site inpower.com, inpower.com. De retour à l'épisode. Ça, j'aime ça parce que tu amènes la notion des hauts dirigeants et des exigences auprès des gestionnaires. Ce que j'ai vu dans les deux dernières années, c'est, je te fais une image là, OK, il faut former nos gestionnaires à être des vigies, puis à être des gestionnaires, qu'on en a parlé tantôt, empathiques, bienveillants, à identifier les employés en difficulté, pratiquement les transformer en psychologues. J'exagère à peine.
Ouais.
Cependant, ce que je vois, c'est que ça vient d'en haut, mais c'est encore une exigence de plus qu'on demande aux gestionnaires. C'est comme si on leur remettait le fardeau de dire, hey, vous avez la responsabilité de vous occuper, en fait, de la santé mentale, de l'organisation, parce qu'on vous remet l'odieux, on va l'appeler comme ça, de vous en occuper. C'est comme si on se délestait, là, quand je dis qui, c'est les hauts dirigeants, on se délestait de la responsabilité. Parle-moi de la responsabilité des gars puis des femmes d'en haut, là. Ils ont une responsabilité dans ça, là.
Mais pour moi, la santé mentale en milieu de travail, c'est une responsabilité partagée. C'est tout le monde. Ça ne peut pas être une personne qui tient ça ou une strate dans l'entreprise. Ça ne va pas le faire. Ça doit venir d'en haut. Il faut que la prise de conscience. Puis, Martin, tu vas être d'accord avec moi. Si de toute façon, la haute direction n'y croit pas, il n'y en aura pas de budget pour former ces gestionnaires-là puis ces employés-là ultimement. T'sais. Fait que ça prend déjà une ouverture d'esprit, pas juste de dire ah oui, maintenant, dans la loi SNSST, on parle de santé psychologique, il faut s'en occuper.
Ouais.
Il ne faut pas que ce soit juste un check sur une to-do list. Il faut vraiment que d'en haut, puis de en haut, ça veut dire que ben moi, comme dirigeant d'entreprise, dans mes réunions avec mes gestionnaires, je suis capable de poser la question. Moi, je leur demande d'enlever la question comment ça va, là. Je leur demande de la transformer par hey, par rapport à ta météo interne, par exemple, comment vous vous sentez par rapport à un animal. Bref, juste pour ouvrir cette discussion-là sans que ça soit trop menaçant. Fait que tu sais, si comme dans mes comités de haute direction, on est capable de faire ça, ben là, mes gestionnaires vont être capables de le descendre, puis ils vont l'avoir compris qu'est-ce que ça apporte. Fait qu'elle est là, la responsabilité. La première responsabilité, si on veut inclure, tu sais, faire un climat de sécurité psychologique, ça doit venir d'en haut.
C'est l'effet cascade, donc ça vient
Oui,
d'en
tout à
haut
fait.
et ça va se rendre jusqu'à l'employé à temps partiel ou l'étudiant d'été. Là, il va sentir qu'il fait partie d'une entreprise et que ça vient d'en haut et que ce n'est pas seulement mon boss direct qui a eu une job à faire, qui vient me demander de temps en temps comment ça va,
Mais
si je comprends bien
exactement.
ce que tu dis.
Mais c'est exactement ça. T'sais. Puis j'ai entendu dernièrement Daniel Henken en entrevue. Ben, en fait, j'ai assisté une conférence qu'elle donnait. Elle disait, mais moi, je me promène, j'allais les voir, les employés. C'était la haute dirigeante, mais elle était sur le terrain aussi. Elle disait, hey, salut, bon matin. Puis elle les connaissait. Bon, est-ce qu'on est obligé de connaître le nom de tout le monde? C'est pas tout le monde qui arrive. Mais le temps qu'elle passait, qu'elle investissait à aller voir ses employés sur le terrain, ça fait une différence. Comme employé, tu te sens pas juste un numéro qui produit, là. Tu te sens partie de l'équipe.
Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est comme l'explosion de la hiérarchie. C'est-à-dire, oui, bien sûr que c'est le grand boss, mais c'est l'explosion de l'hiérarchie où ce que je me permets de dire qu'on est tous humains dans cette organisation-là. Puis, pas parce que je suis le grand boss que je peux pas aller voir les employés, puis leur parler, puis de leur donner mon temps, mon énergie et mon écoute. C'est ce que j'aime. Tu as parlé de co-création tantôt, puis ça m'a amené un peu sur ce sujet-là de l'explosion de la hiérarchie. On voit de plus en plus, je veux pas dire l'abolition, mais la disparition de la bonne hiérarchie traditionnelle. C'est-à-dire, bon, ben la fameuse pyramide, hein, il y a le grand boss en haut, puis on descend jusqu'en bas. On voit de plus en plus des organisations, surtout des organisations qui est composée de jeunes. Quand je dis jeune, là, tu sais, 20, 30, 35 ans, ou est-ce que, ben, beaucoup plus jeune que moi, ça, c'est sûr. Des jeunes qui arrivent dans le milieu du travail et eux, ce type de hiérarchie, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent co-créer, ils veulent participer, ils veulent. Mais ça, c'est un facteur incroyable de protection en santé mentale, psychosociaux, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette nouvelle approche hiérarchique, qui est en fait pratiquement sans hiérarchie, est beaucoup plus adéquate pour une saine santé mentale que la hiérarchie traditionnelle du grand boss qui cascade jusqu'en bas. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses.
Ouais, j'ai pas lu beaucoup sur le sujet, mais ce qu'on sait, c'est que déjà dans les facteurs de risque psychosociaux en milieu de travail, un des facteurs de protection, c'est de laisser la place aux employés qui aient leur mot à dire. Donc, on peut penser
Voilà.
qu'effectivement, plus on va être impliqué. En même temps, puis effectivement, on le voit beaucoup, là, puis je connais des gens qui travaillent à aider les entreprises, même à tourner le modèle vers une hiérarchie, je vais le dire, plus aplatie. Je sais pas, on va
Ouais.
le dire comment ça s'appelle, mais je pense que même si on va pas jusque-là, parce que j'entends des gens dire hey, on se rendra jamais là, on est bien trop une grande entreprise, puis il y a trop de travail, sans se rendre jusqu'à il n'y a plus vraiment de hiérarchie, comment je peux juste être plus présent dans les opérations, on va dire comme ça.
Avoir mon
Juste.
mot à dire et
Ben oui,
participer. Je pense que
qu'on
c'est ce
m'entende.
qu'on recherche, ben, qu'on m'entende, effectivement. Et non pas qu'on soit dans ce cycle de production à la chaîne. Je pense que c'est un sacré beau facteur de protection quand un employé est en mesure de pouvoir participer dans la direction de l'entreprise et non pas seulement d'exécuter. Laisse-moi revenir sur toi. Quand je dis toi, c'est je sais que tu fais un travail extraordinaire dans les entreprises, tu fais des formations. Je suis curieux d'en apprendre plus sur ton approche. On a parlé de plusieurs sujets là depuis le début de l'entrevue. Hein. On parle de l'ouverture, la transparence, on a parlé de la bienveillance, mais quand tu te retrouves devant, à nouveau, des gestionnaires, c'est quoi le parcours ou l'approche que tu as envers eux pour qu'à la fin de cette formation, ils puissent se dire, OK, là, j'ai compris. C'est quoi mon rôle? C'est quoi mes responsabilités? Et aussi, comment je peux aborder mes employés, peut-être différemment, sans biais cognitif? Comment fais-tu pour les amener là?
Mais on commence vraiment par la base, puis toi aussi, tu en parles beaucoup, on va enlever la stigmatisation. Là. Moi, je dis beaucoup de détaboutiser la santé mentale. Donc, juste de dire les vrais faits de ce que c'est la santé mentale et qu'est-ce que c'est en milieu de travail. Fait que juste mettre les faits, puis qu'est-ce que vous observez? Tu l'as nommé, on a demandé aux gestes. Moi, je dis beaucoup, on a pitché dans le cours des gestionnaires de prendre soin de la santé mentale, mais comment on fait ça? Fait que déjà, de comprendre ce que c'est, puis que ce n'est pas être hospitalisé, hein? Parce que si on fait de 5 ans, mettons avant la pandémie, on pensait que la santé mentale, c'était être en psychiatrie à l'hôpital. Ça, il y a eu une évolution quand même, là, je trouve, dans la définition de la santé mentale, on est un peu plus au clair de ce que ça peut être, mais c'est quoi dans mon milieu de travail? Puis j'ai bien beau les reconnaître, ces signes-là, il faut que je devienne à l'aise d'être en mesure d'intervenir. Mon approche, c'est vraiment de leur faire vivre à eux. Toi, quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as de besoin? T'sais, parce que souvent, la réponse est « je sais pas quoi dire ». Bon, de un, moi, j'aime bien dire « tu as deux oreilles puis une seule bouche », c'est pour écouter deux fois plus que tu as besoin de parler. Puis tu n'opères pas personne à cœur ouvert. Bon, là, j'ai pas encore été voir des chirurgiens cardiaques, me diras-tu. Je changerai peut-être mon exemple rendu là. Mais d'arrêter d'avoir cette peur-là de dire les mauvais mots, de faire la mauvaise chose, puis de suivre leur cœur. Moi, je le dis tout le temps, il y a certainement des mots qui sont meilleurs que d'autres, mais même si j'ai été 20 ans travailleuse sociale, je suis pas sûre que j'utilise toujours les mots parfaits. Mais comme mon intention réelle est d'aider l'autre, peu importe les mots que je vais dire, que si j'ai créé ce lien-là, ça va passer, ça va être correct. Parce que j'ai une réelle intention d'aider. Fait que moi, là, ce que je veux leur démontrer, c'est plus qu'il va y avoir cette ouverture-là avec leur équipe, ça ne deviendra pas une surcharge. Parce qu'au début, c'est « Hey, tu vas pas me demander de passer du temps avec chacun de mes employés, j'ai pas le temps de faire ça. » D'où hein, qu'on vient de l'importance que ça vienne d'en haut, parce qu'on peut peut-être y ajuster certaines tâches de gestionnaire. De un, peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour le faire. Parce que tu n'es pas ami avec tous tes voisins. Ça se peut qu'avec des employés, ça soit aussi plus difficile. Soyons réalistes, c'est des êtres humains. Fait que moi, je trouve que c'est beaucoup de leur enlever de la pression du faire encore avec une stratégie. Oui, il y a des grandes lignes. Oui, je décortique l'intervention optimale en grandes étapes pour avoir une ligne de conduite. Mais je ne ferai jamais de verbatim de voici comment il faut faire. Fait qu'il faut voir moins comme une nouvelle tâche, mais bien dans une... C'est d'apprendre à être beaucoup plus que dans le faire. Puis ça, ça parle parce que du faire, leur to-do list, ils ne savent plus où la mettre parce qu'ils en ont trop. Mais juste dans l'aptitude, c'est différent. Dans l'attitude, c'est différent.
Je l'entends tellement souvent, ça. Ah non, c'est une autre affaire que j'ai à faire. T'sais, faire deux fois, là, je viens de le dire dans la même phrase. Là. C'est comme si on ajoutait un fardeau supplémentaire, alors que c'est dans l'attitude, c'est ce que tu l'as dit, c'est que si on ajuste notre attitude à tous les jours, c'est pas une tâche de plus. C'est un comportement qui change, c'est un sourire, c'est un appel, c'est une écoute, c'est quelques minutes de dire, viens dans mon bureau, c'est un meeting. Encore une fois, je te fais un exemple. Quand j'étais gestionnaire dans une autre organisation il y a plusieurs années, j'avais des rencontres hebdomadaires, des statutaires avec mes employés. Je prenais toujours le temps de débuter avec, bon, me diras-tu que la question est peut-être un peu trop pointue, mais comment vas-tu? Et puisque j'avais déjà parlé de mes enjeux santé mentale, souvent les gens s'ouvraient plus facilement. Donc, c'est un changement d'attitude. Donc, il y a l'ouverture, mais c'est un changement d'attitude où ce que tu te mets en position d'écoute. Puis souvent, ces statutaires-là, qui devaient durer peut-être une demi-heure, duraient une heure, mais au moins, les gens sortaient puis avaient l'impression de dire, OK, on a parlé de deux sujets importants, donc mes objectifs, mes tâches, mon rôle, mais j'étais en mesure de pouvoir dire dans quel état d'esprit je suis pour faire ces tâches-là. Et ça, pour moi, ça a été un changement drastique dans mon approche et dans ma gestion. Fait que ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que tu les amènes à comprendre bien sûr, la santé mentale, mais à d'intégrer peut-être un changement d'attitude ou une approche différente de ce qu'on appelle la gestion traditionnelle de « je suis le boss, puis toi, tu fais tes affaires ». Est-ce que j'ai bien compris?
C'est exactement ça, puis j'ai envie de te demander, moi, Martin, quand tu as changé ta façon de faire, puis que tes employés, tu prenais, oui, plus de temps que le 30 minutes prévues, leur productivité, parce qu'on va en parler, là, c'est ça un des objectifs des entreprises, c'est d'avoir une productivité sur le terrain. Est-ce que tu as vu une amélioration de la productivité après avoir pu parler avec toi de comment ils se sentaient réellement? Donc, je suis plus focus après à ma tâche.
Je vais aller plus loin que ça. Oui, j'ai vu une augmentation de la productivité. J'ai vu une augmentation significative de l'esprit de corps et l'esprit d'équipe. J'ai vu une implication, c'est pas le bon terme, mais j'ai vu que les gens avaient à cœur de faire partie de non seulement de cette équipe, mais une appréciation de faire partie de cette organisation-là parce qu'ils se sentaient écoutés. J'ai vu également, chiffres à l'appui, une baisse des absences.
Oui.
J'ai vu réellement des éléments concrets, là, des KPI, là, je pourrais t'en donner. Dans ma façon de gérer traditionnelle avant que j'en parle ouvertement moi-même de mes enjeux de santé mentale, j'avais pas ces résultats-là. J'avais l'impression d'avoir une distance. Je dis pas que j'étais maintenant rendu ami avec mes employés, c'est pas ça la question, mais j'avais une certaine distance où je n'arrivais pas à rejoindre ces employés-là. J'étais dans les directives, tu dois faire ça, t'as pas fait ça, voici les conséquences. Alors que quand tu arrives avec une ouverture, avec une discussion entre deux humains et non pas entre un
Exactement.
patron et un subordonné, appelons-le comme ça, j'ai remarqué chez moi un changement drastique, pas juste dans ma façon de gérer, mais également dans la réaction de l'équipe. Quand tu rencontres ces gestionnaires-là, sens-tu de la résistance de ces gestionnaires-là de dire, ben moi j'ai toujours géré de même, Chantal, moi c'est de même que j'ai aussi été formé
Ouais.
par Monsieur Tanguay qui avait 75 ans, puis que lui marchait de même, puis c'était pas content, t'es de wow. On en a tous eu des bosses de même. Mais comment est-ce que tu sens une résistance?
De moins en moins, je te dirais. Puis tu l'as nommé tantôt, pas du tout avec la nouvelle génération. De un, l'intelligence émotionnelle, maintenant, elle est enseignée à l'école de gestion, là. Ce que, si on recule, il y a quelques années, ça ne l'était pas encore. Fait que tout ce qui est la nouvelle génération de gestionnaire, je ne la sens pratiquement pas du tout. Puis de moins en moins, mettons, une génération un peu plus vieille, un peu plus vieille que moi, là. De moins en moins parce qu'ils le sentent, ils se sentent démunis par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs employés. Fait qu'ils savent qu'ils doivent faire différent. Puis moi, en fait, ce que je leur dis, on n'a pas besoin de réinventer. On part de ce que vous avez déjà. On fait juste moduler. On réinventera pas le système. Il y a déjà plein de choses en place. Qu'on pense juste à tout ce qui est plus industriel, manufacture. Toute la santé, sécurité physique est tellement importante. On peut-tu construire sur ce que vous avez déjà qui fonctionne, puis ajouter la santé psychologique dedans? On réinventera pas, on fait juste. Puis partir de ça, c'est solide pour eux. C'est quelque chose qui est acquis depuis, bon, peut-être pas toujours, mais vraiment très longtemps. Donc, c'est facile de construire à partir de quelque chose qui existe déjà. C'est moins menaçant. Je pense que quand je leur demande l'exemple de changer le début des réunions d'équipe pour un vrai comment ça va, les jeunes vont l'essayer beaucoup plus vite. Puis vont se faire contaminer par le reste de l'équipe parce qu'ils le voient. Ultimement, quand tu es gestionnaire, tu as envie que ton équipe, ça fonctionne bien aussi. Puis si tu le vois dans l'équipe voisine qu'il y a eu des changements, mais pourquoi je ne l'essayerais pas?
L'effet de la contamination. Effet de
Oui.
contamination, j'aime ça, j'aime ça. Donc, montrer
Motiver.
l'exemple. Montrer l'exemple, non pas seulement à ton équipe, mais montrer l'exemple à ceux qui entourent aussi les autres départements, les autres secteurs. J'aime beaucoup ça. Donc, dans une entreprise qui n'aurait pas cette culture-là, ben, tu peux être le petit village gaulois, c'est-à-dire de dire, moi, je vais implanter ça dans mon équipe et que ça va peut-être faire des petits en disant, hey, regardons, le Chantal, avec son équipe, là, ça marche bien, je vais essayer de le faire. Donc, ça peut avoir un effet de contamination. J'aime ça comme point de vue. Je te pose une dernière question, Chantal. Merci encore pour ton temps, j'apprécie beaucoup. Si tu avais trois trucs et astuces à donner à un gestionnaire qui nous écoute. Trucs et astuces ou takeaway de cette entrevue, tu leur dirais quoi? Partez avec ces trois choses-là. Déjà, vous êtes en bonne posture, vous êtes déjà dans un commencement de solution.
Prends soin de toi en premier. Enlève la pression de penser que c'est toi qui vas tout changer tout seul. Puis, je l'ai dit quelques fois, mais pour moi, c'est un gros game changer dans les entreprises, le changement de début de réunion d'équipe.
Ouais.
Puis moi, je leur dis, croyez-moi pas, testez-le. Voyez ce que ça va faire. Et c'est rapide, les résultats qu'on peut observer. Fait que testez-le donc cette semaine. Au lieu de demander comment ça va en début de réunion d'équipe, puis être prête avec votre to-do list, de dire, hey, j'ai le goût qu'on fasse un tour de table. Je vous demandais comment ça va, mais plus si on compare avec la météo, vous sentez comme des journées ensoleillées, passage nuageux, nuageux, orageux. On fait le tour, on ne demande pas d'explication, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire et que les gens n'ont pas
Ouais.
l'habitude de s'ouvrir. C'est pas menaçant. Je vais juste dire comment je me sens. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben, je préfère pas répondre, puis c'est correct. Ça se peut qu'au début, si tout le monde se désensoleille parce que justement, c'est donc bien, t'sais, on faut dire qu'on va bien. Faites-le quelques fois, voir s'il n'y aura pas une évolution et mettez-vous dans le jeu.
C'est ce que
On
j'allais dire. Ouais.
désire. Ben, moi, ces temps-ci, j'ai quelques passages nuageux. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est orageux, même si vous vous sentez orageux, mettons que vous n'êtes pas confortable. Hein? Commençons par quelques passages nuageux. Déjà, je pense qu'on enlève une petite couche de ah, on peut pas dire que ça va pas. J'irai avec ça. Puis, en troisième lieu, je pense que c'est de voir la position de l'organisation. En comité de direction, peux-tu en parler? On en est où, nous, par rapport à ça? On la voit, la détresse sur le terrain, les statistiques le démontrent, les arrêts de travail le démontrent. Ça coûte cher, des arrêts de travail en santé mentale. Et où notre position? Comment nous, comme organisation, on veut se positionner? Puis avoir cette réflexion-là pour après ça pouvoir mettre des actions en place qui soient juste d'ouvrir la discussion sur la santé mentale, qui soient juste de dire, on peut-tu avoir un langage commun au sein de l'entreprise pour enlever la stigmatisation? Qu'on ose dire peut-être que ça va moins bien, tu sais.
Donc, prendre soin de soi,
Ouais.
ouverture et transparence par rapport aux rencontres de puis j'aime beaucoup l'analogie de la météo. Vraiment, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est cet élément-là, j'adore. Et la troisième, c'est un peu d'essayer d'influencer, d'être un influenceur, non pas dans un avion à faire la fête, mais un influenceur dans son organisation pour essayer de amener un dialogue sur comment on se positionne par rapport à la santé et le bien-être de nos employés. C'est les trois conseils que tu donnerais à nos auditeurs.
Oui.
Pour terminer, Chantal, parle-moi de toi plus précisément, ce que tu fais en entreprise et de ton organisation.
Ouais, mais moi, en fait, je suis une ancienne travailleuse sociale. J'étais 20 ans dans le réseau de la santé. Fait que je m'amuse à dire que j'ai une expertise professionnelle et aussi personnelle parce que j'ai quitté le réseau de la santé suite à un arrêt de travail qui a été super long. Dans l'arrêt long, on a 26 mois. Fait que c'est un arrêt de travail super long. Dans lequel, ben moi, j'en ai un diagnostic, Martin, de santé mentale, de trouble anxieux généralisé. Donc, j'ai vécu un arrêt de travail pour me remettre de tout ça. J'avais toujours vécu avec, mais disons-nous que dans les années 90, l'anxiété, c'était populaire. C'était pas populaire, c'était respire par le nez si ça va aller mieux. Ça me jouait des tours rendu à l'âge adulte avec un enfant. Fait que j'ai décidé de quitter les réseaux parce qu'il y avait plein de choses que je voulais faire autrement, en fait. J'ai fait un peu de pratique privée dans mon bureau pour me rendre compte que les gens étaient en dépression, burn-out, anxiété, arrêt de travail et tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller en entreprise. C'est ce que je fais aujourd'hui pour détaboutiser cette santé mentale-là. Donc, j'ai commencé avant la pandémie. On n'en parlait vraiment pas beaucoup de la santé mentale. Fait que c'est beaucoup d'aller l'ouvrir, justement, avoir ce langage-là commun sur la santé mentale, qu'on s'assure dans l'entreprise que on les enlève les derniers tabous qui pourraient rester encore, parce qu'il en reste encore. Il y en a beaucoup moins. Tu sais, je pense, tu sais, on voit quand même une belle évolution, mais il en reste encore des tabous. Puis beaucoup l'accompagnement des gestionnaires, justement. Ma formation s'appelle, puis je trouve ça, j'ai bien de la misère à trouver des noms, mais celle-là, je trouvais qu'elle faisait du sens. Gestionnaire et santé mentale sans y laisser ta propre peau. C'est beaucoup ça, là, comment je fais face à cette détresse-là psychologique. C'est autant c'est quoi les bonnes, t'sais, au niveau des réunions d'équipe, mais aussi au niveau de l'approche de mes employés, peut-être qu'ils vont moins bien, de créer ce climat de sécurité psychologique, tout ce qui est le défi au niveau des arrêts de travail, santé mentale. On fait quoi avec nos employés quand ils sont en maladie? Qu'est-ce qu'on fait quand on revient? Donc, vraiment, d'aller mettre des bases. Mais au-delà de mettre des bases, je pense qu'il faut aussi faire l'accompagnement par la suite parce que j'ai bien beau dire, voici les bonnes pratiques. Quand tu vas le tester, ça se peut que ça l'accroche. Fait que, t'sais, j'accompagne aussi à vraiment mettre en place les stratégies, là, s'assurer de pratique erreur, tu reviens après 3, 2 mois, comment ça s'est passé, comment on peut ajuster en équipe de gestionnaire. C'est beaucoup ce que je fais aujourd'hui.
Et aussi, tu es très, très, très active sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. J'adore tes interventions. Donc, hey, merci Chantal. Je sais que ça fait un bout que je voulais t'avoir comme invité pour diverses raisons. On est super occupés, mais tu as pris du temps aujourd'hui pour m'accorder cette entrevue-là et je l'apprécie beaucoup. Merci.
Merci Martin de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de parler de santé mentale et d'entreprise avec toi. C'est toujours plein de découvertes des deux côtés. Je trouve ça super intéressant. Merci.
Ceci met fin à cet épisode du balado entre les deux oreilles. Premièrement, un grand merci à mon invité cette semaine, Chantal Dufort, formatrice, conférencière et bien sûr détaboutiseuse en santé mentale en entreprise. Si vous désirez en savoir plus sur Chantal et les services qu'elle dispense, on vous invite à consulter son site web chantaldufort.com. Si vous êtes un habitué de LinkedIn, je vous invite à vous abonner au profil de Chantal. Elle est très active sur ce réseau et elle publie régulièrement du contenu de grande qualité. Merci à nos partenaires Relief, le chemin de la santé mentale, et InPower. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, bien, on vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme favorite. N'hésitez pas à liker, commenter, à nous poser des questions. On aime beaucoup interagir avec vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. On est facile à trouver, juste à taper entre les deux oreilles dans les différents moteurs de recherche. Venez nous visiter sur notre site web au www.entrelesdeuxoreilles.ca où vous y trouverez l'ensemble des épisodes du podcast, des textes et un répertoire des ressources d'aide partout au Québec. Donc, en mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. À bientôt!